Vous êtes branchés sur le 97.4 Radio Saint-Pierre Express.
Bonjour, bienvenue sur Radio Saint-Pierre Express, il est midi et quart et donc je vous rappelle qu'on peut écouter en direct sur internet et les podcasts en rediffusion sur le site radioexpress.free.fr. Aujourd'hui, il est prévu d'avoir une émission sur un autre regard sur le football. J'invite aujourd'hui Samuel Victoria, bonjour.
Bonjour.
Eh bien écoute, nous t'écoutons un peu pour nous parler un peu de ce nouveau regard sur le football.
Alors, nouveau, on va dire autre, surtout parce que l'idée en fait était de proposer un autre type de message sur le football que celui qui est véhiculé habituellement dans les médias ou dans un maximum de lieux communs. Et donc le football étant une de mes passions avec l'histoire contemporaine, particulièrement le 20e siècle, je me suis toujours interrogé sur la façon dont l'histoire du sport rencontrer l'histoire tout court. Et donc quand on creuse ce sujet-là, on découvre des histoires fascinantes, des histoires d'hommes, des histoires, j'ai envie de dire, pures et qui rappellent tous les messages et les émotions qui peuvent être véhiculées par ce sport en portant un regard différent que celui du capitalisme triomphant et basique et des millions et des millions et de tout ce qu'on peut parler de négatif dessus. J'avais envie de regarder ça différemment. Donc aujourd'hui on va aborder une question un peu plus spécifique. Donc j'ai voulu regarder dans le 20e siècle des exemples quand le foot a pu être utilisé par des États ou par des mouvements politiques comme un instrument de propagande politique, soit pour maintenir la population sous une forme de domination, ou alors quand le foot a au contraire contribué à la libération des peuples. Il y a aussi d'autres exemples dans l'histoire qu'on va pouvoir observer. Donc pour commencer, je me suis dit qu'un exemple assez éloquent de l'utilisation du foot comme propagande politique, ce serait l'exemple de l'Argentine dans les années 70, où on va recontextualiser au niveau historique pour mieux se situer à cette l'Argentine au moment du début de la Première Guerre mondiale est la 8e puissance mondiale ou 9e puissance mondiale à cette époque, et à l'issue de la guerre elle a commencé à être sous le poids des États-Unis, le joug que vont développer les États-Unis sur toute l'Amérique latine avec leurs entreprises et la domination qu'ils ont mis en place. Donc on aura l'occasion d'en reparler à différents exemples. Donc ici en Argentine en 74-75, la dictature des généraux se met en place à Buenos Aires. Donc on redécouvre un régime militaire avec tout ce que ça imbrique d'entrave à la liberté, de lutte contre les opposants aussi, les opposants politiques. Donc à l'époque il y a beaucoup de morts, de gens qui sont enlevés, des enfants qui sont raptés chez les opposants. On y reviendra parce que c'est une histoire étonnante, ces histoires de rapt. Mais du coup l'organisation de la Coupe du Monde avait été confiée avant l'arrivée des généraux par la FIFA à l'Argentine, qui ne lui a pas enlevé l'organisation, qui lui a laissé et qui a permis donc au général Videla à l'époque de faire la promotion de son pays et de son régime, alors qu'à quelques kilomètres des stades où il y avait la Coupe du Monde, et ben on massacrait des gens. Et donc le général a utilisé la communication possible autour de cet événement pour faire la promotion, mais en même temps il voulait absolument gagner et c'était obligatoire, la victoire devenait obligatoire par tous les moyens. Et quand on parle de tous les moyens, c'est que bah, la Coupe du Monde 78, il y a des soupçons évidents de corruption sur l'Argentine, particulièrement sur un match de qualification où ils doivent gagner par 5 ou 6 buts d'écart contre le Chili. Et finalement, ils gagnent 7-1 ou 8-1 dans une parodie de football qui montre que bah, derrière, les Chiliens avaient reçu des pressions et on les avait menacés, il y en a qui ont été achetés. Il y a tout plein d'exemples de pressions possibles sur une équipe adverse. Donc, quand on peut, pour relier un petit peu à l'Europe à cette époque-là, dans quelques pays, il y avait des gens qui s'étaient élevés contre la participation des pays européens à cette Coupe du Monde, mais personne réellement en dehors de Johan Cruyff qui a refusé d'aller jouer là-bas, alors que bah, il était un des meilleurs joueurs du monde à l'époque. Mais à part lui, personne ne s'est réellement positionné sur la question, et on a dit the show must go on, et on y va peu importe. Peu importe le message qu'il y a derrière et l'utilisation qui en est faite. Donc cet exemple-là illustre comment déjà à l'époque la FIFA était déjà discutable sur la façon dont on peut respecter l'outil football qui est d'abord pour le peuple à la base, et qui est pour qui prône des valeurs éducatives, qui prône tout un tas de bonnes choses. Et là, elle s'est dévoyée. Bon, encore une fois, c'est assez navrant de cautionner ces choses-là, mais on l'a encore vu récemment. On peut se poser des questions par rapport à la Russie, par rapport à tout un tas d'autres exemples où les choix sont politiques. Le Qatar, hein, qui va être hilarant aussi, ce sera intéressant à regarder a posteriori, parce que maintenant on a la tête dans le guidon, mais a posteriori, ça sera bien rigolo de regarder. Donc, l'Argentine a fini par gagner cette Coupe du Monde contre les Pays-Bas. Mais du coup, la dictature des généraux n'en a pas profité plus que ça, parce qu'elle n'a pas duré si longtemps, il me semble jusqu'en 82 ou 83. Et du coup, je voulais parler de cet exemple-là, parce que pour l'Argentine, ça continue toujours un peu, dans le sens où le président actuel, Mauricio Macri, il me semble, a lui utilisé la présidence de Boca Juniors comme un chemin vers le pouvoir. Parce qu'en considérant qu'il allait être président d'un des clubs les plus populaires d'Argentine, que les Argentins sont fans de foot, et ben ça allait contribuer à améliorer son image, et ça l'a mené jusqu'à la présidence. Donc, c'est intéressant également. On va changer de continent pour aller sur un message un petit peu différent. On va parler d'un pays qui va nous intéresser à Saint-Pierre, à savoir l'Algérie. Au vu des rapports qu'on a avec ce pays, je me suis dit que c'était intéressant aussi de parler de ce qui s'est passé chez eux. Donc moi, l'exemple que je voulais évoquer, c'était l'équipe nationale du FLN dans les années 50, du Front de Libération Nationale. Donc pareil, une petite récontextualisation pour bien comprendre de quoi je parle. À l'époque, donc là on est en 1950, début 1958, il y a des joueurs algériens qui jouent en France pour l'essentiel à l'époque, qui une nuit décident de fuir la France et de rejoindre le gouvernement autonome à Tunis. Il me semble que c'était Tunis. Et parmi ces joueurs, on retrouve des membres de l'équipe de France qui étaient susceptibles de partir à la Coupe du Monde 3 mois plus tard, et qui ont décidé de sacrifier leur carrière professionnelle et une éventuelle Coupe du Monde pour aller se battre pour la libération de leur pays et pour faire passer le message dans le monde à travers la création d'une équipe de foot compétitive, de faire parler du combat des Algériens, parce que du coup, si pour les plus jeunes, à l'époque, en France, on est face à une presse qui est muselée sur le sujet de l'Algérie et qui ne parle épisodiquement que d'événements. Alors que c'est clairement une guerre de libération, mais l'opinion publique n'est pas suffisamment au courant de la situation au vu de ce muselage. Donc ces joueurs, donc pour les anciens, reconnaîtront Mekloufi, Zitouni et quelques autres pour les plus célèbres. Et donc l'histoire est assez rigolote parce que certains par voiture, certains par avion, par l'Italie pour rejoindre la Tunisie. Et ils sont partis sans avertir leur club, leurs employeurs ni rien, parce que du coup ils auraient pu finir en taule pour ça. Donc l'idée c'était de partir discrètement, puis une fois arrivé de dire coucou les gars, nous maintenant on est l'équipe d'Algérie, on va porter le drapeau et on va aller dans tous les pays qui voudront bien nous recevoir, hein. Parce que du coup l'Algérie n'étant pas officiellement un pays aux yeux de la FIFA, ils ont été joués uniquement dans des pays qui comme eux n'étaient pas reconnus. Donc ils ont été joués beaucoup en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe c'était difficile, ils jouaient un petit peu en Europe de l'Est chez d'autres pays qui n'étaient pas reconnus par la FIFA à l'époque, hein, pour porter ce combat. Donc là où ça me plaît, c'est de voir que ces hommes ont fait le choix d'un combat politique, d'un combat d'idées, un combat philosophique au détriment d'une carrière, et qui ont utilisé leur notoriété pour promouvoir des valeurs, la démocratie, les libertés. Tout le monde n'est pas capable de faire ce sacrifice là. Donc cet exemple là pour moi il me parle beaucoup, parce que le sportif, je pense, quand il a les moyens intellectuels, doit être un outil pour faire valoir ses idées. Et donc du coup ça m'intéressait beaucoup. Dans un autre registre, on va repartir en Amérique latine, qui est un terreau intéressant sur tout ce qui est le combat politique et le combat des peuples. Ici on va aller au Chili. On va observer un petit peu la tranche entre 73 et 89, soit globalement la période Pinochet. Donc recontextualisation: 11 septembre 73, le palais de la Moneda à Santiago est encerclé par les troupes de Pinochet, qui ont été encouragées et équipées par les États-Unis pour faire quitter le pouvoir à Salvador Allende, président socialiste du Chili, qui avait entamé tout un processus de nationalisation des richesses et qui du coup luttait contre l'empereur États-Unis qui dévorait tout sur son passage. Donc lui, il s'est opposé, il a gagné les élections, il me semble 68, il a eu le temps de mettre en place un certain nombre de choses sur le pétrole, sur les richesses du pays. Mais du coup, on met en septembre 73, il est abattu au palais de la Moneda par l'armée de Pinochet. Et donc Pinochet prend le pouvoir dans le contexte où, au niveau football, le Chili doit affronter en novembre 73 l'URSS dans le stade de Santiago pour les barrages de la Coupe du Monde 74 en Allemagne. Et les Russes, on va dire, ont utilisé la situation du Chili pour ne pas aller jouer au Chili en disant en disant on ne peut pas aller jouer dans un pays où le peuple est maltraité et tout, mais alors qu'en fait ils espéraient juste obtenir la qualification sur tapis vert et aller à la Coupe du Monde sans avoir à jouer. Mais du coup ils se sont pas déplacés et la FIFA a ordonné au Chili de jouer quand même le match. Ça peut paraître hallucinant, mais ils ont demandé à ce que le Chili aille dans le stade, aille jouer une action pour aller marquer un but, et le match s'arrêterait là. Donc on retrouve des images d'un stade vide avec une seule équipe sur le terrain qui se fait des passes pour aller marquer dans un but vide. Ce jour-là, les joueurs chiliens, pour faire passer un message politique, ont été célébrer le but, entre guillemets, devant une tribune vide, pour saluer la mort des combattants et des militants politiques qui se sont donnés. Ils voulaient les saluer. Et à la suite de ça, ils ont été reçus à la Moneda par Pinochet. Et il y avait à l'époque un grand joueur chilien qui s'appelait Carlos Cagelli, qui était un des rares à jouer en Europe, en Espagne. Et ce joueur-là recevait beaucoup de commentaires de la population qui lui disait Carlos, tu peux m'aider, Carlos, tu peux m'aider, regarde ça. Puis lui, il était un partisan d'Allende. Et donc, une fois au palais, quand tous les joueurs se sont mis de façon militaire devant le dictateur pour qu'il aille leur serrer la main, lui il a refusé. Et il a pas serré la main, puis il a dit vous savez monsieur Pinochet, il y a des problèmes avec le peuple, il y a des problèmes avec le syndicat, faut que vous vous posiez des questions là-dessus. Ce à quoi il lui aurait rétorqué je ne veux pas entendre parler de ça. Et ça a fait de Cagelli un héros populaire. Ce qu'il faut savoir à la suite de ça, c'est que ça lui a coûté, parce que quand il est reparti en Espagne, la junte militaire a arrêté sa mère et l'a mis en prison et l'a torturé à l'époque pour se venger de l'affront qui a été fait au dictateur. Et donc du coup, à la suite de ça, il s'est un peu rangé parce qu'il avait pas envie de qu'il y ait plus encore. Mais du coup, on le retrouvera Cagelli en 1989, quand à l'époque le Chili, sous la pression internationale et particulièrement celle du Vatican, a été obligé de convoquer un référendum pour ou contre Pinochet, en gros. Et en dépit de la situation, c'était très serré entre la démocratie et la dictature. Cagelli a décidé avec sa mère de faire un spot publicitaire dans lequel il racontait tous les deux ce qui leur était arrivé, et la mère a montré ses blessures dans le spot de publicité. Puis Cagelli qui disait c'est parce que je ne veux plus qu'il arrive des choses comme ça dans mon pays que je voterai non. Et ce qui a aidé en fait à faire gagner le référendum au non, pour faire virer Pinochet. Des études de sondeurs à l'époque ont montré que ça avait permis à 7% d'indécis de basculer dans le camp du non. Et quand on regarde les résultats, ça correspond peu ou prou à l'écart qu'il y avait entre les deux. Donc c'est... Bah, encore un autre exemple de... on pourrait dire que c'est de l'héroïsme, mais c'est de la citoyenneté d'abord, et c'est avoir conscience que sa position permet de faire passer un message juste pour la paix, pour la démocratie, que là il faut y aller, il faut l'utiliser. Il y aurait encore moult exemples dans le monde, mais du coup il y a tout plein d'histoires qui jalonnent le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, et de voir cette façon dont les deux histoires s'imbriquent. On peut penser au jeu de Munich, Munich 1936, on peut même les Jeux Olympiques 68. Il y a tout plein de milliers d'exemples qui nous permettent de nous rendre compte que le football aujourd'hui il est considéré comme le suppôt du grand capital, si je puis dire, si vraiment j'allais au plus profond de ma pensée, mais il développe aussi tout un tas d'autres choses qui sont mises de côté. Et que on peut regarder l'histoire du XXe siècle à travers cette lorgnette de voir comment il y a des minorités qui agissent pour la liberté. Je pense également en Yougoslavie, des gens pendant la guerre de Yougoslavie. Je repensais à un exemple d'un joueur professionnel yougoslave de l'époque qui avait monté un petit club de foot à Sarajevo sous les bombes, multiconfessionnel. Et le gars, il a arrêté sa carrière, il s'est installé là-bas, et sous les bombes, il continuait de recevoir les enfants de toute confession pour jouer au foot. Et au final, ne serait-ce pas ça le message définitif qui est de le sport comme un outil pour se rencontrer, pour se découvrir soi et les autres, et se rendre compte qu'on peut s'unir et tendre vers un même but. Ça peut paraître con, c'est pousser un ballon dans un but, mais c'est déjà ça. Et par les temps qui courent où l'individualisme exacerbé de nos sociétés nous pousse au repli et toujours à baisser la tête et à avoir toujours du noir, il faut conserver espoir parce que il y a des enfants et il y a des ballons.
Vous êtes branchés sur le 97.4 Radio Saint-Pierre Express.
My eyes make it go away. How long?
Nous sommes toujours sur Radio Saint-Pierre Express 97.4. C'était la chronique de Samuel Victoria, un autre regard sur le football. Ce qu'on peut retenir, c'est vraiment que le football est un engagement comme n'importe quel sport. Voilà, merci Samuel. On peut te retrouver sur internet en direct et en rediffusion sur radioexpress.free.fr et notamment demain pour une nouvelle édition mercredi à 12h15, c'est ça ?
C'est ça.
Eh bien, merci encore Samuel.